Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine ici, je pars à la rencontre d'entrepreneurs, d'indépendantes, de freelance, de solopreneurs comme toi et comme moi qui nous rapportent dans nos conversations leurs conseils, leurs apprentissages, leurs leçons et leurs questions aussi parfois sur leur business et leur vie d'entrepreneur. Chaque épisode couvre une thématique spécifique, mais évidemment on y parle de plein d'autres choses pour t'inspirer et t'apporter des clés concrètes pour avancer. Donc installe-toi bien, prends de quoi noter et on se plonge ensemble dans l'épisode du jour. Merci pour ton écoute et on se retrouve à la fin. Dans cet épisode, on accueille pour discuter une personne spéciale, parce que c'est la première fois, je crois, depuis le début du podcast, non, je suis même sûr que c'est la première fois que je reçois quelqu'un que j'ai accompagné en coaching sur ce podcast. Et je suis vraiment, vraiment content de la conversation qu'on s'est prête à avoir, parce que en 1 an, on a vécu beaucoup de choses avec Caroline Tellery, qui est ici et qui va nous parler du fin fond de sa montagne avec sa vue incroyable qui concurrence la Vienne. Coucou Caroline, comment ça va?
Salut Thomas, ça va super. Très très contente d'être là et je vois pas ma super vue là, tu vois, depuis mon bureau, donc tant pis.
Ouais, moi non plus je ne suis pas face à la vue, mais bon, je sais que la tienne est tout aussi belle que la mienne, avec plus de montagnes et je crois un lac aussi.
Et un lac, ouais, carrément.
Trop bien, la chance. plein de choses dont on va parler aujourd'hui ensemble. J'ai envie notamment de parler d'une phrase que tu m'avais dite à l'époque, au tout début de notre coaching, je reviendrai dessus après. Mais je crois que tu connais la première question rituelle par laquelle j'aime bien démarrer ces conversations, qui est la suivante. Caroline, comment, mais surtout pourquoi, est-ce que tu es devenue indépendante ?
Ok, alors moi je suis devenue indépendante en 2019, juste après la naissance de mon premier enfant. Donc en fait, c'est une année où s'est passé beaucoup de choses en même temps. Donc mon conjoint a été muté ici dans les Alpes. Donc, moi, j'ai dû perdre mon travail. J'étais chargée de com sur Toulouse. Et voilà, donc on savait aussi, il y avait ce déménagement qui arrivait, il y avait le bébé qui allait arriver aussi. Je savais que j'allais habiter dans un coin perdu de France. J'avais passé en fait, quand j'étais salariée, j'habitais pas sur place. Enfin, j'habitais pas proche de mon lieu de travail, donc je faisais 2h30 le matin de transport et 2h30 le soir. Et là, ça s'annonçait à peu près la même chose, tu vois, pour aller bosser. Donc
Ah ouais, j'avais pas,
j'avais
je me suis pas rendu compte à l'époque que c'était ça, 2h30 aller, 2h30 retour, c'est énorme.
Ouais, en fait, j'habitais dans le fond du Tarn, tu vois, je faisais terminus à terminus en train, donc 1h30 de train, et après j'avais une demi-heure de bus pour y aller. Ouais.
Ok.
Mais
Intense.
ça, c'était intense, mais ça a été parce que j'ai eu 2 années en alternance, du coup je bossais à fond dans le train et le soir j'étais tranquille. Et
Ok.
j'ai la chance de dormir dans le train, tu vois, donc tu me mets dans un train, je m'endors direct. Donc je les ai pas trop vus passer, mais c'est vrai que quand j'ai arrêté de le faire, j'ai l'impression d'avoir eu, tu sais, toute une fatigue qui tombe dessus comme ça d'un coup. J'étais mais KO. Et là, avec un bébé qui arrivait, je m'étais dit c'est mort, je veux pas repasser ma vie dans les transports, je profitais un peu. Pas envie de faire des trajets, et puis envie aussi de me laisser porter dans cette première maternité, profiter de mon bébé, et puis voir ce qui allait se passer. Je me suis pas en vrai posé trop de questions. Je m'étais pas renseignée avant, tu vois, sur le fait d'être freelance, d'avoir des statuts particuliers, trouver des clients, c'était quoi mes offres. Enfin, vraiment, j'y suis allée au feeling, quoi. Enfin, franchement, c'était très. J'ai suivi le mouvement, tu vois. Donc, ouais, octobre
Ouais, donc.
2019, freelance à temps plein.
Ouais. Du coup, ce que j'entends, c'est que c'est effectivement plus les conditions d'évolution de ta vie et ton couple qui ont fait que ça s'est imposé comme presque la meilleure chose à faire, de se dire j'habite au fin fond de nulle part, j'ai un
Ouais.
enfant qui arrive, j'ai envie d'en profiter, j'ai pas envie de subir le lieu où j'habite et la disponibilité du travail à côté, donc je vais créer ma propre ressource travail, quoi, finalement.
C'est ça, et puis ouais, la flexibilité que ça te permet d'avoir aussi quand t'es parent, c'est hyper agréable, on va pas se mentir, parce que au départ, donc mon fils allait à la crèche 3 jours par semaine, mais t'es jamais à l'abri, voilà, il fait ses dents, il a de la fièvre, la crèche ferme, il faut aller le récupérer, enfin voilà, c'est une flexibilité qui est trop importante. Maintenant, je pourrais pas, juste pour ça, je pourrais pas revenir salarié, c'est impossible.
Ouais, c'est clair. Mais tu vois, c'est intéressant parce que en t'écoutant, je me dis, tu vois, je pense que c'est pas encore la norme en France, ou en francophonie d'ailleurs, si on est temps, de se dire, ok, je me retrouve dans cette situation. Il y a beaucoup de gens qui se seraient dit, bah, ok, je vais faire avec ce qu'il y a à côté, et qui vont quand même rester dans ce truc de, il me faut un job salarié et je vais regarder qui embauche dans le coin, quitte à finir à bosser au supermarché du coin parce que c'est tout ce qui est de dispo, bah, je vais faire ça. Tu penses que c'est quoi qui faisait que la case entreprendre existait de base? Parce que pour plein de gens, je pense que cette case, elle n'existe même pas dans la réflexion, tu vois.
Ouais. Je pense que déjà, je suis partie avec un avantage, c'est que mon conjoint, tu vois, il est salarié. Il a une bonne place, on a un logement de fonction. Je me suis jamais posé la question de mince, j'ai pas assez facturé ce mois-ci, je vais pas pouvoir payer, je sais pas, mes factures ou à bouffer, enfin quoi que ce soit, tu vois. Donc déjà, je trouve que c'est un luxe énorme qu'on a de pouvoir se dire, bah je fais ça un peu pour m'amuser. Et je sais que de toute façon, on n'a pas besoin de plus pour vivre que ce que gagne mon conjoint, tu vois. Donc ça, ça m'a clairement donné l'espace de pouvoir faire ça. Et après, on a la chance aussi. Donc, j'ai décidé moi de créer tout de suite une société. Je me suis pas mis en micro. Et quand tu es créateur d'entreprise, t'as droit à ton chômage pendant 2 ans, pareil. Donc, ça aussi, c'est hyper pratique. On va pas se mentir. C'est hyper confortable, quoi, de savoir que bah, j'ai bossé 4 ans et demi, j'étais salarié, et là, pendant 2 ans, je vais pouvoir monter mon entreprise. Investir dans des coachings parce que je sais que j'ai mon chômage qui va tomber et que financièrement parlant, ça le fait, tu vois. Il n'y avait pas cette pression-là déjà et je crois que c'est une énorme pression quand on réfléchit à se lancer à son compte.
Ouais, c'est clair. Et tu vois, ça me touche que tu dises ça parce que je pense que tu le sais en ce moment, dans les contenus qu'on produit ou notre manière de travailler avec la boîte, ce que j'essaie vraiment de réfléchir, c'est la dimension politique de ça. Et là, ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est que comme tes besoins primaires étaient nourris et qu'il n'y avait aucun risque de manque financier, logement, nourriture, enfin tout ça,
ouais.
C'est ça qui t'a permis d'avoir l'espace de dire bah, « je vais oser, je vais tenter, je vais prendre des risques et je vais essayer de construire quelque chose qui me ressemble ». Parce que la base était là. Et ça, je crois que, comme tu le dis, pour beaucoup de gens, c'est pas la réalité. Et donc, la case ne peut pas exister si les besoins primaires sont pas nourris, quoi.
Ouais, c'est clair. Et moi, je suis hyper reconnaissante aussi, tu vois, que mon conjoint m'ait suivi aussi dans le truc, parce qu'il était pas du tout obligé de me dire, OK, on va vivre que sur mon salaire, alors que, bah, on a des prêts à rembourser comme plein de gens. Enfin, on a des frais, tu vois, qu'il faut qu'on paye quand même tous les mois. Et il a toujours été OK de dire, bah, fais tes trucs, amuse-toi, et puis si ça marche, tant mieux, on va tout faire pour que ça fonctionne, mais si ça fonctionne pas, bah, c'est pas grave, t'iras prendre la voiture et t'iras travailler. Et j'étais prête à le faire, tu vois, je me suis vraiment laissée porter, et puis j'ai eu la chance aussi d'avoir un employeur qui a compris aussi la situation et qui m'a fourni du travail en freelance, de la fin de mon congé mat, donc de début octobre, jusqu'à à peu près janvier-février l'année d'après. Donc j'étais occupée, tu vois, j'avais des choses à faire. C'était des gens que je connaissais, mais pas en tant que prestataire. Donc ça t'entraîne aussi, tu vois, à gérer une relation client, à voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, et te dire bah, j'ai un nouveau-né d'un mois et demi, je vais pas me galérer à trouver des clients, je fais avec ce qu'il y a, et c'est un sujet que je maîtrisais de toute façon. Donc ça aussi, c'était une chance aussi.
Ouais, c'est clair que je m'arrête une seconde dessus pour les gens qui nous écoutent, qui se sont pas encore lancés, parce que je pense que c'est une super bonne démarche, c'est de se dire, bah, si on quitte un emploi pour se lancer, une bonne pratique, c'est de voir comment je continue de délivrer le travail que je faisais avant, juste dans un changement de statut, et ça donne cette continuité de je me retrouve pas seul à ouvrir mon ordinateur et me dire, merde, maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai plus rien, faut que je recrée et tout. C'est pas facile, cette situation-là, et je l'ai vécu moi-même le moment où t'ouvres l'ordi et tu te mets devant en mode « Ok, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que j'ai branlé ?» Et je pense que ça, c'est une super pratique, de voir comment je fais pour continuer ce que je faisais avant et payer en facture plutôt que payer en salaire, finalement.
C'est ça. Et puis moi, je sais que ma chef de l'époque était hyper ouverte à ça. Je savais déjà, quand j'étais salariée, qu'elle voulait monter une petite équipe de freelance auprès desquelles on pourrait, tu vois, déléguer plein de sujets. Donc, dès que j'ai su qu'on allait partir et que ça allait pas être possible pour moi de rester, ne serait-ce qu'en télétravail, je lui ai proposé direct. En fait, je lui ai dit, écoute, voilà ce qui se passe. Moi, je veux quand même continuer d'avoir du travail. Donc, je te propose ça. Et ils ont joué le jeu et c'était super de leur part, quoi.
Ouais. La démarche proactive, je pense, a beaucoup joué, du coup. Là où, et ça, c'est un autre truc qui est important, à mon sens, à mentionner, c'est, je pense souvent on peut avoir ce shift parce qu'on y est super bien entraîné avec l'école et le salariat de je suis en posture d'attente, j'attends qu'on me donne des choses à faire et qu'on me dise quoi faire et qu'on, du coup quand t'es freelance, vienne me chercher. Là où là ce que tu dis c'est que direct t'as la posture proactive de ok, je sais que je pars, je sais qu'il y a des choses qu'elle est en train d'essayer de vouloir faire, ma supérieure, comment je peux l'aider à faire ça et je vais proposer quoi. Et ça je trouve, moi, je pense que tu t'en rends compte en étant en compte que c'est un shift important.
C'est clair. Ouais, et puis je pense que c'est important aussi, tu vois, ça faisait 4 ans et demi que je bossais là, l'équipe commençait à vraiment structurer, j'adorais les personnes qui bossaient là-bas, j'adorais aller bosser là-bas, et c'est important aussi de pas partir, tu vois, en claquant la porte et en se fermant du coup après des portes pour soi-même, et c'était important, tu vois, de finir la chose proprement et de les accompagner vers cette transition-là aussi, parce que j'ai une remplaçante qui est arrivée pour mon congé mat, mais à ce moment-là, on savait pas en fait que j'allais partir, donc on était plutôt dans l'optique de je ferai du télétravail. Et du coup, dès que j'ai eu l'info, bah tout de suite quoi, faut pas. Je trouve que c'est des sujets importants et en tant que, tu vois, en tant que, je me mets à la place du patron aussi, tu vois, c'est super dur quand t'as quelqu'un qui avec qui tu t'entends bien, il y a une vraie dynamique de travail qui s'est instaurée, de voir la personne partir comme ça du jour au lendemain en claquant la porte, c'est trop dommage quoi. Donc vraiment être dans une posture où tu te dis je vais faire les choses bien, je vais accompagner ça, et ils avaient des projets à me donner, tant mieux, tu vois, ils en auraient pas eu, bah j'aurais pas eu de remords non plus parce que j'aurais fait les choses bien, quoi.
Ouais, de ouf, de ouf. Mm. Du coup, j'entends les sortes de trois grands ingrédients qui t'ont accompagné dans le fait d'oser démarrer cette aventure, c'est le fait d'avoir l'espace nécessaire et que t'étais pas dans un besoin pressant, mm. et du coup, il y avait la liberté d'oser et tester. Donc, un entourage, enfin, un système qui te permettait de le faire. Et là, je ouais. pense que c'est toute la dimension politique qui est hyper importante,
ouais.
Où bah, l'État, le gouvernement doit permettre d'avoir cet espace et que les besoins primaires de tout le monde soient remplis.
Ouais.
J'entends aussi qu'il y avait l'ingrédient de l'entourage, avoir un entourage soutenant qui, bah ouais, qui est là avec nous pour y aller et qui n'y va pas à reculons. Je pense que ça fait une énorme différence. Et
ouais.
Je pense toi comme moi, on voit beaucoup de gens pour qui c'est pas la norme dans leur vie, mmh. malheureusement, et ça change vraiment tout. Et ensuite le troisième, comme tu mentionnais, la continuité avec l'expérience professionnelle d'avant, où ton job se transforme en mission. Et clairement, je pense que ces trois choses, ça aide beaucoup à se dire, ok, j'y vais, je teste, je fais mes premières armes et je me lance dans l'arène.
Ouais. Et puis moi aussi, ma mère a toujours été un peu à son compte. Tu vois, elle a toujours eu un commerce. Donc je pense que j'ai vu ça aussi, tu vois, le côté ouais. Bon, juste on y va et puis ça permet d'être flexible et en vrai ça t'apprend aussi beaucoup de choses. Donc moi j'y suis vraiment allée comme ça, quoi. Je me suis pas posé plus ouais. de questions que ça et avec le recul je me dis c'est vraiment une chance parce que j'ai des copines là qui sont en train de se lancer aussi et quand je vois la galère que c'est de ouais juste par quel bout ouais. est-ce que je prends cette nouvelle vie, quoi, c'est
ouais.
Il y a tellement de choses à penser et à faire que, surtout quand t'as un nouveau-né, tu vois, c'est ton premier, tu sais, il y a déjà plein de choses à gérer.
C'est clair.
On va pas prendre la tête pour le pro.
Ouais.
On va faire ça, et puis on verra bien ce que ça donne. Et puis, ouais.
Ouais.
Ça fait depuis 2019, et aucun regret, quoi.
Ouais. Mais c'est vrai que, après, je pense, chaque mode de commencement de cette aventure a ses avantages et ses inconvénients.
Ouais.
Là où toi, ce que je comprends, c'est ok, j'ai directement eu du travail. Et je sais qu'il y a d'autres missions qui tombaient après, notamment via Malte pour toi, où
ouais.
du coup, t'étais directement dans le faire. Mm. Et c'est un des sujets qu'on a retravaillé ensuite quand on a bossé ensemble ouais. en coaching, de ok, prenons du recul maintenant. Et si oui. je sors de que faire,
ouais.
parce que bah, certains des inconvénients de faire que faire, c'est qu'on n'a jamais vraiment défini qui je suis, pour qui je suis et qu'est-ce que j'ai ouais. envie de faire. Et en même temps, de l'autre côté, si tu commences direct avec rien, et que t'es en train de travailler un peu dans le fond sur pour qui j'ai envie de bosser, qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais qu'on n'a pas la matière première du terrain, là aussi, ouais. il y a des inconvénients. Donc je pense que ouais, c'est un mariage des deux qu'il faut faire. Donc ouais, mais pas ouais, évident puis... dans les deux situations, enfin, voilà, avantages et inconvénients, quoi.
Ouais, après, je pense aussi qu'il faut... Après, c'est peut-être moi, tu vois, qui souris un peu peace and love par rapport à ça, mais je pense qu'il faut faire confiance aussi un peu des fois aux planètes. Tu vois, moi, enfin, j'ai toujours eu l'impression qu'il y a tout qui se passait au moment où ça devait se passer. Et juste, tu prends ce qui vient et tu fais avec et tu vois ce que ça donne. Après, voilà, j'ai de la chance, tu vois. Il m'est pas arrivé un pépin en cours de route ou quoi que ce soit, donc j'ai reçu que du positif pour le moment, je touche du bois. Mais ouais, de savoir faire avec ce qu'on te donne et puis... ouais, après, tu vois, tester, c'est vrai que le premier jour, je me rappelle quand même, j'avais mon fils, tu vois, qui ne dormait pas, donc déjà, la ressource énergie pour moi était hyper basse. Mais j'ai ouvert mon ordi, j'étais là, punaise, c'est le premier jour, je suis plus en contrat chez personne. C'est quoi en fait? Ça veut dire quoi, freelance? Qu'est-ce que je suis censée faire? comment ça se passe, quoi? Et ouais, ça, c'est dur, et je trouve que on a la chance quand même d'être en 2023 et qu'il y ait plein d'outils qui existent. Tu vois, tu parlais de Malte tout à l'heure, et même si je pense on en reparlera de Malte, mais moi je suis hyper reconnaissante que ces plateformes-là aient existé, parce que je sais pas comment j'aurais fait sans ça. Après, ouais, j'ai prospecté, j'ai fait des cartes de visite que j'ai jetées un petit peu comme ça dans tous les commerces où j'allais, tous les gens que je voyais. Du coup, je fais des sites internet, rappelle-moi, mais ouais, c'était pas... Ouais, j'ai fait les choses vraiment... je crois que je savais pas ce que je faisais, en vrai. Tu vois, c'était amusant, et puis on y est allé, quoi.
Ouais. Ouais. Mais ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est le côté, il y a un temps pour tout.
Mm.
Et ce dont je voulais parler avec toi, là, c'est quand on avait démarré notre coaching, qui, je crois, est 9 mois, presque 1 an après que tu te lances, tu m'avais dit une phrase qui m'avait vachement marqué. Tu m'avais dit... J'ai l'impression, quand je bosse avec certains clients, que je suis comme un bien de consommation. On bosse avec moi et après, une fois que c'est fini, bah, on me jette et voilà, j'ai fait le travail, mais on n'a plus besoin de toi. Je pense que t'es vraiment pas la seule à vivre ça dans ton aventure freelance. Et en même temps, j'entends que jusqu'à un certain moment, c'était OK. Parce qu'en fait, voilà, tu testais, tu avais des missions différentes, on venait faire appel à toi et tu faisais tes gammes. Et à ce moment-là, c'était déjà bien, quoi. Et c'était suffisant et tu t'es lancé. Et au bout d'un moment, c'est plus OK. Et ça, je trouve ça très intéressant. Parce que souvent, on peut se dire, bah, direct, j'ai envie d'être parfait et hyper dans les meilleures conditions dès le début. Mais en fait, peut-être qu'il faut passer par ça aussi pour l'apprentissage, pour ensuite s'asseoir sur ce qui nous parle le plus, quoi.
Ouais, moi je trouve que cette année que j'ai eue, parce que d'octobre 2019 jusqu'à ce qu'on débute le coaching, j'étais vraiment, ma principale source d'acquisition, c'était Malte. Je faisais que ça. J'ai demandé des recommandations, tout de suite aux anciennes personnes avec qui j'ai bossé. Ouais. Et voilà, j'ai suivi toutes les masterclass de Malte, tous les webinaires qu'ils font pour comment avoir un bon profil. J'ai retravaillé mon portfolio, j'ai fait des petites mises en page, tout ça, pour avoir un profil qui corresponde à ce que la plateforme attendait. Et ça a super bien marché. J'ai jamais eu la sensation de me dire, oh, j'ai aucune demande ce mois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Ça a tout de suite, tout de suite, ça a pris. Mais ça a tellement pris que pendant un an, j'ai charbonné comme jamais, quoi. Je me suis pas, tu vois, on n'a pas vraiment pris de congé, on s'est pas arrêté. Je bossais tous les jours. Et puis, il y a eu le Covid aussi, tu vois, la première année où je me suis lancée. Mais juin 2019, là, on avait les premiers confinements. Et moi qui venais d'un milieu où je bossais pour des pharmacies, j'ai été débordée de travail. Tu vois, fallait faire des kakémono pour indiquer ici on vaccine, ici on vaccine pas. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et j'ai jamais eu la sensation de soi de pouvoir lever le nez de mon ordinateur et me dire, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et quand je l'ai fait, c'est là que t'es arrivé, quoi. Le Messie, tu vois. ouais, c'est ça. Et puis non, mais j'ai commencé aussi, tu vois, à écouter des podcasts, à me renseigner un peu sur le sujet, à suivre des comptes qui étaient freelance aussi, et juste à commencer à prendre du recul sur ce qui se passait. Et effectivement, j'étais épuisée. Mon fils dormait toujours pas, tu vois, au bout d'un an, et j'arrêtais pas d'enchaîner l'émission, donc c'était dur. Et là, je me suis dit, non, il y a un truc qui va pas, parce que je facture à tour de bras, mais je me sors très peu, je gagne très peu avec ce que je facture. Donc, certes, il y avait un problème, tu vois, de tarification de base, mais c'est l'erreur aussi qu'on fait tous dès le départ, quand on se met sur des plateformes de freelance. Donc, il y a eu ce besoin de, au bout d'un an, de se dire, bah, c'est bon, j'ai testé plein de choses, je sais les gens avec qui je veux pas travailler, je sais pas encore exactement pour qui je veux travailler, mais je sais ce que je veux pas faire. J'ai testé, j'ai eu le temps de mettre en place des outils, me créer des process, mettre en place des choses, et maintenant que j'ai ça, j'ai besoin de passer la marche dessus, quoi.
Ouais, et j'entends que il y a cette notion de tarification qui, je pense, effectivement, va en partie de comment ça se passe globalement quand on s'inscrit sur une plateforme comme Malte. Il y a cette tendance à se dire, je vais regarder les gens qui font à peu près comme moi, je vais pas mettre des prix trop hauts parce que je démarre et je veux des missions. Donc on a cette espèce de réflexe bizarre de se mettre en dessous du prix des autres, et on sait pas d'ailleurs comment les autres l'ont défini non plus, donc on se base sur pas grand chose. mais je veux bien, si cette vague de, juste pour reposer ce terme de freelance de consommation que je trouve hyper intéressant, que tu nous repartages un peu, qu'est-ce que t'entendais par ça quand tu m'avais partagé ce terme?
Tu vois, c'est pour moi, en fait, c'était vraiment, les clients, ils étaient dans une grande surface, ils faisaient leur petit marché, ils demandaient à plein de gens, ok, j'ai besoin d'un logo, combien ça te coûte, tu vois, sans te donner plus de précision. Donc déjà, il y avait, un manque de respect dans la forme de ce qu'ils te demandaient. C'était toujours, par contre, c'est un projet urgent, je devais le sortir il y a déjà une semaine, donc il me le faut pour demain, tu vois, le truc classique. Et il y avait classique. Ce côté, ils prenaient pas en considération, en fait, qu'il y avait une vraie personne en face d'eux, tu vois, qu'il y avait des compétences, qu'il y avait des capacités, qu'il y avait un regard aussi à porter sur la chose, parce que il y a un piège aussi, je trouve, dans le, quand t'es graphiste, designer, ou enfin, en tout cas, que t'es dans le visuel, c'est que ce que tu dois produire doit absolument plaire au client, Et sur Malte, moi, le souci que j'avais, c'était, ok, je répondais à leurs demandes, mais j'avais jamais mon mot à dire, tu vois. Ils avaient choisi une couleur un peu pourrie, jamais, j'avais pas l'espace pour leur dire, là, je vous conseille pas ça, parce que franchement, c'est pas, le choix des couleurs est pas super, mais il te faisait changer des détails 20 000 fois, mais c'est classique, tu vois. Enfin, c'est vraiment, ouais, c'est classique quand t'es dans le visuel. Et je trouve que sur Malte, alors c'est pas vrai de toutes les personnes qui se mettent sur Malte pour trouver des freelances, mais 80% des gens qui sont venus à moi, c'était vraiment pour de la vraie consommation, tu vois, le truc jetable. Mmh. C'était vraiment, c'était ça, quoi. J'avais l'impression d'être quelque chose de jetable et c'était fini après. Après la presta, c'était fini, j'avais plus de nouvelles, je savais pas si les supports que j'avais créés, ils les avaient bien utilisés, je savais même pas si au final ils s'en étaient servis, est-ce qu'ils l'avaient retouché ou pas, parce que mine de rien, t'y passes du temps, t'y mets de l'énergie et t'y mets aussi bah, du cœur à faire les choses, et puis tu te rends compte que bah ils ont changé tout seul les logos, les couleurs du logo, ou ils ont revu la taille de la typo, et ils ont tout cassé. Donc c'était vraiment, ok, bah j'ai fait un truc, mais en fait, pourquoi tu m'as payé? Parce que tu le refais toi tout seul de ton côté et tu mets un gros coup de pied comme ça dans mon travail. Et ça, c'était... ouais, à force, je me suis dit, mais les gars, je suis pas juste là pour faire des logos et des supports à tour de bras. Et c'était du travail à la chaîne, en fait. Et c'était du jetable. Concrètement, ouais, c'est ça que je voyais derrière ça.
Ouais, ce que j'entends, c'est cette tension... Et pour les gens qui nous écoutent, si vous vivez ça aussi, je vous invite vraiment à reach out et en parler soit à Caroline, soit à moi. Enfin, parce que je pense que c'est vraiment le vécu de beaucoup de personnes, cette tension entre j'ai une expertise, donc j'ai des compétences au service d'un savoir très spécifique pour aider des gens à faire telle ou telle chose, genre créer une identité visuelle et ainsi de suite. Il y a un vrai savoir derrière. Et que les clients viennent juste chercher la compétence très terre à terre de, bah, vas-y, j'ai une idée, je veux juste que tu te taises et que tu fasses mon idée sur Photoshop ou InDesign, mais surtout tais-toi s'il te plaît, juste fais ce que je te dis. Et c'est effectivement une tension, je pense, pour plein de gens qui se sentent vidés de ça, parce que t'es juste le bras articulé d'une personne qui a ses idées et qui a aucune envie d'échange. Et c'est triste, et c'est vraiment pas ce que je souhaite, c'est n'importe qui se lance, parce que je pense que c'est pas ce qu'on veut vivre quand on est freelance, quoi.
Non, et puis ça tue ta créativité aussi à petit feu, tu vois, parce que t'en viens à plus te poser de questions, juste tu réponds à un brief, et de toute façon tu sais que si tu proposes des choses un peu trop éloignées de la demande initiale, ça sera de toute façon pas accepté, tu vois, donc tu commences à rentrer dans une espèce de routine aussi qui fait que moi, d'un point de vue créatif, j'avais l'impression, tu vois, de mourir à petit feu. Je disais, mais c'était tellement à la chaîne et tellement répétitif. Et puis, je m'y retrouvais plus du tout. Et puis, il y avait ce côté aussi positionnement, tu vois, qu'il fallait trouver. On a passé du temps à essayer de redéfinir ce que j'étais, ce que j'avais envie de partager. Et moi, il y a quelque chose que tu m'avais dit à l'époque et qui m'avait vraiment marqué. Je te partageais le fait que je me sentais designer, mais il y avait ce côté un peu stratège, tu vois. Vraiment, la stratégie, pour moi, c'était hyper important. Et encore aujourd'hui, tu vois, j'essaye de faire en sorte qu'on travaille la forme des projets, mais aussi le fond, parce que l'un et l'autre sont complémentaires et se nourrissent. Et je t'avais dit, mais ça, en fait, quand t'es designer, pour moi, c'est la base, en fait. Cette stratégie-là, elle est... Tout le monde l'a fait. T'es obligé de la faire, sinon tu peux pas y arriver. Et tu m'avais dit, ouais, mais il y a une différence entre le faire, parce que c'est une habitude, et l'assumer et le dire, tu vois. Et ça, du moment que tu assumes aussi... du moment que j'ai assumé ça, ce côté vraiment designer, stratège, j'étais tout de suite dans une autre posture. Et ça a changé... Ça a changé plein de choses pour moi. Donc, se poser les bonnes questions.
grave. J'allais commencer à demander à ton sens ce qui t'a aidé à sortir de ça, mais je pense que ce premier point de posture, il est hyper important, parce que tu peux être sur Malte, tu peux recevoir des demandes de Malte, de personnes qui veulent que tu sois juste le bras articulé qui fait les tâches qu'ils veulent que tu fasses. Et en fonction de ta posture, de comment tu reçois ça, ça change tout. Soit t'es en mode, le client est roi, je vais faire tout ce qu'il dit, et tu te replies. Ce qui est, je pense, le cas pour beaucoup, beaucoup trop de gens sur Malte, malheureusement, par habitude, parce que c'est à ça qu'on nous entraîne aussi. On nous entraîne pour être des bons petits soldats qui exécutent les désirs de la personne qui nous paye. Mais à mon sens, on a un devoir pédagogique, on a un devoir, ouais, comme tu dis, d'aller plus loin. Et là, dans la posture, ça change tout. Parce que tu peux aussi recevoir ces demandes et dire, bah, j'entends que vous avez besoin de ça. En revanche, dans ma méthode de travail et comment moi je travaille, pour avoir les meilleurs résultats pour mes clients, on passe par ça, puis ça, puis ça, puis ça. Si vous ne voulez pas faire tout ça, bah, c'est très bien, mais ce ne sera pas avec moi, quoi.
Ouais. Et puis, il ne faut pas avoir peur de le dire aussi, parce que je pense que des fois, on se dit, mince, si je présente ça, c'est plus long que les délais que le client, ouais, m'impose. Est-ce que derrière, je vais avoir d'autres demandes? Parce qu'il y a ce côté engrenage aussi. Plus tu fais de missions sur le mat, plus tu gagnes des points. Et mieux, ouais, t'es mis en avant par l'algorithme aussi. Donc, tu dis, zut, si je refuse, ou si le client refuse cette mission-là avec moi, est-ce que ça va pas dégringoler derrière aussi? Et pour moi, Malte, ouais, même toutes les plateformes, hein, il faut vraiment le voir comme c'est un canal d'acquisition à part entière. C'est pas, il faut pas mettre tous ses efforts là-dessus, mais il faut vraiment le voir comme si, tu avais une stratégie de création de contenu, je sais pas, moi, pour LinkedIn, ou que tu faisais du Google Ads, ou peu importe, tu vois, mais il faut le voir comme si ça faisait partie d'un écosystème. C'est bien d'y passer, ouais, du temps, et c'est bien d'être présent, mais il faut pas avoir peur de dire non aussi à certains projets et de se dire, c'est pas grave, si je perds deux clients Malte, ma vie va pas s'arrêter, quoi. Il y a plein, ouais, de façons de rencontrer les gens.
Ouais. Ouais, ce que j'entends là-dedans, et je pense que c'est le cas avec beaucoup de choses, c'est que le risque, c'est la dépendance, finalement. Si la seule manière dont je peux travailler, c'est avoir des gens via Malte, bah, je vais tout faire pour abonder en ce sens, et bah, parfois, ça veut dire nuire à mes propres conditions, baisser mes tarifs, alors qu'en vrai, c'est pas du tout rentable de le faire. Enfin, voilà, aller à son propre rencontre,
ouais,
juste pour nourrir Malte, la machine, et je pense que c'est vraiment pas le but.
Ouais, c'est ça, et puis il y a une part de kiff aussi dans le travail qui est quand même importante. Et s'il n'y a plus du tout de plaisir dans ce que tu fais parce que bah, t'enchaînes les projets à la chaîne et t'as pas le temps de prendre du recul ou ne serait-ce que des vacances, tu vois, pour te reposer, bah, le kiff, il n'y est plus. Et s'il n'y a pas de plaisir dans ce que tu fais, bah, ça va mourir, quoi. C'est normal.
Grave. Ouais. Du coup, dans les choses qui... Ce dont je voulais parler avec toi, c'est cette discussion de... Ok, pour toutes les personnes qui se sentent potentiellement dans cette case freelance de consommation et qui veulent en sortir, c'est quoi les étapes, c'est quoi les ingrédients? Ce que j'entends là, qu'on a mentionné pour l'instant, c'est cette posture du coup de, bah, en fait, prendre un peu en graine, je suis quelqu'un de professionnel, j'ai une méthode, j'ai un savoir-faire et je vais l'assumer. Et tu parlais de positionnement aussi, et c'est effectivement un sujet je pense que c'était presque la moitié de notre accompagnement, on était à fond là-dessus, sur tous les éléments de trouver ce positionnement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette phase-là de ton travail et ce que ça a changé pour toi?
Sur la phase positionnement, tu veux dire?
Ouais, qu'est-ce que ça t'a apporté? Déjà toute la démarche qu'il y a derrière, mais une fois que tu as trouvé ce positionnement que tu assumes maintenant de designer stratège et tout ce qu'il y a derrière, ton sens, c'est quoi la valeur que ça t'apporte, tu vois, pour sortir de freelance de consommation?
Je pense que le vrai truc, c'est que ça t'apporte à toi de la valeur, déjà. Tu vois, t'es fier de... C'est quand même dur, tu vois, de trouver un positionnement et de définir des offres et de trouver le ton avec lequel t'as envie de communiquer. Donc déjà, je trouve que tu te prends au sérieux quand tu définis ça. Et certes, il faut qu'il y ait du plaisir dans ce que tu fais, mais se prendre au sérieux, c'est important. Et du coup, en te prenant au sérieux, bah, je trouve que les choses, elles s'enchaînent. Du coup, petit à petit, tu vois, tu commences par... Bah, ok, je sais ce que je veux plus faire, donc ces projets-là, je les mets de côté. J'en parlerai même pas, tu vois, dans mon portfolio, parce que bah, je sais que c'est pas ça que j'ai envie de transmettre, de communiquer. Donc déjà, faire le tri sur ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, ce que t'as envie de continuer ou pas. C'est quoi tes process actuels? Comment ça se passe une mission avec toi? C'est quoi le début? Qu'est-ce qui se passe au milieu? C'est quoi la fin? Comment tu célèbres une fin de mission? Est-ce que tu le fais déjà? Et puis après, une fois que t'as un petit peu cette frise, tu vois, cette frise chronologique d'une mission avec toi, de te dire, ok, bah, ça c'est ma façon de travailler et je vais en faire un vrai outil. Et au tout début, je pense à la moitié du coup du coaching quand on a mis en place un petit peu tout ça, j'avais fait, mais c'est toujours aussi sur mon site, c'est les petits croquis de comment ça se passe au début, Et c'était la façon la plus simple pour moi aussi de le communiquer. Donc, trouver comment tu veux communiquer ce que tu fais, c'est important. Et au final, ce petit croquis-là, qui ne paye pas de... Enfin, moi, je l'ai fait en 10 minutes. Hein, j'ai tout le temps des gens qui me disent « Ah, mais c'est trop bien, c'est super, c'est hyper clair, on comprend tout de suite ce que tu veux, ce que tu fais, comment tu le fais. » Je dis « Ok. » Du coup, ça, t'as moins d'efforts à produire, tu vois, pour expliquer comment tu travailles, ce que tu fais, et tu gagnes du temps, tu gagnes de la sérénité, et puis t'as envie, du coup, de pousser un peu plus loin. « Ok, maintenant j'ai mon positionnement, next step, quoi. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais créer du contenu, faire une chaîne YouTube ?» Il y a plein de choses en vrai qui sont possibles. Et moi, d'avoir trouvé ce positionnement-là, t'as un fil conducteur que tu suis. Et ça veut pas dire que de temps en temps, tu vas pas t'écarter de ce chemin-là. Mais t'es au clair, tu vois, t'es droit dans tes bottes et t'es au clair sur ce que tu es et sur ce que tu veux apporter aussi, quoi.
Ouais. Et ce que j'entends, juste pour reclarifier pour les gens qui nous écoutent, quand on parle de positionnement, ce dont on parle, c'est quelle est ma manière spécifique de répondre à quel problème spécifique ? Et trouver ce point de rencontre entre pour qui je suis et comment je suis pour ces personnes. Dans ma méthode de travail dont tu as mentionné, et c'est un exercice fascinant, je trouve, de poser, ok, si on bosse avec moi, avec tous les moyens que j'aimerais y mettre du début à la fin, c'est quoi toutes les étapes par lesquelles je passe ? Il y a des éléments de cette méthodologie qui nous démarquent complètement et qui deviennent des choses qu'on peut... rendre unique et appuyer dans le marketing comme tu le mentionnais.
C'est ça.
Et c'est vrai que quelque part, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que c'est aussi beaucoup un travail de connaissance de soi.
Ouais.
Et que plus on se connaît soi et plus on connaît notre manière de bosser et plus on l'assume, plus on devient distingué par rapport à d'autres personnes qui ont peut-être le même métier, mais pas du tout la même méthode ou les mêmes choses qui leur parlent, quoi.
Ouais. Et il y a un truc aussi qui est hyper important, c'est que tout ça, je trouve que ça te permet de poser c'est quoi les conditions pour bosser avec moi. Tu vois, qu'est-ce que le client vient chercher aussi, mais c'est bien de faire l'exercice inverse et de se dire c'est quoi les conditions pour que moi je vienne bosser avec ce client. Qu'est-ce que j'attends de la part du client, tu vois, est-ce que j'ai des choses qu'il doit faire absolument, est-ce qu'il a une posture à avoir. Moi je sais que le côté projet passion pour mon client, si le projet est pas assez vivant chez lui, s'il a pas, tu vois, ce petit côté plein d'énergie, il y a une petite flamme en lui par rapport à son projet, j'irai pas, quoi. Enfin, ou j'irai, mais à reculons, et c'est pas du tout une bonne, c'est pas une bonne idée. Mais de fixer aussi les conditions inverses, je trouve que c'est intéressant de le faire aussi, et ça met au clair pas mal de choses quand t'es à ton compte.
Ouais. T'as d'autres exemples, parce que c'est souvent un truc que je partage en disant. Si tu acceptes n'importe quelle condition et n'importe quelle chose qu'on te propose, au bout d'un moment, ton client va te proposer n'importe quoi.
Ouais.
Genre souvent avec cette blague de « Ah bah du coup, Caroline, si t'as fait ça et ça et ça, tu peux venir déplacer mon frigo pour le déménagement de la semaine prochaine. » Et je vois plein de gens pour qui c'est presque ça, tu vois. C'est « Ah bah t'as fait le truc, t'as fait ça. Tu sais pas faire ça aussi, vas-y, on te paye et tu fais ça vite fait. »
Ouais.
Et du coup, je trouve cette question des conditions, elle est vachement importante. Tu mets quoi dans ce lot, tu vois? Genre, j'entends, ok, il faut que la personne soit passionnée, il y a d'autres choses.
Ouais, il faut qu'elle soit passionnée, il faut qu'elle soit prête à investir et de l'argent et du temps dans la mission, parce que moi, je suis pas du tout en mode je fais le travail toute seule dans mon coin et je livre le truc et c'est fini. Moi, j'ai besoin que la personne en face, elle soit investie, tu vois, on fait le plus de rendez-vous possible, on échange, on se fait des petits messages sur WhatsApp et tout, parce que j'ai besoin de cette disponibilité-là. Je sais pas faire autrement, en fait. Donc, moi, j'ai créé un petit... moi, j'ai fait un petit document de bienvenue quand une mission commence, où je fixe, en fait, c'est quoi mes conditions. Par exemple, je bosse pas le mercredi parce que je garde mes enfants. je suis pas joignable après 16h30. Voilà. Je suis joignable de telle heure à telle heure, en dehors de ces horaires-là, je garantis pas mon délai de réponse. Et en contrepartie, c'est bien si déjà la personne en face, elle comprend ça, elle l'intègre et elle le respecte. Et aussi, elle s'engage à me fournir tout ce dont j'ai besoin pour travailler, que le projet, ça soit pas un truc un peu annexe qu'elle fait pour s'amuser, parce que c'est sérieux, en fait. Moi, c'est mon taf de bosser pour elle. J'ai une entreprise à faire tourner, donc il faut que la personne se prenne un petit peu au sérieux, quoi. Donc ouais, il y a ça. C'est essentiellement ça, j'ai l'impression. Je réfléchis, mais je trouve pas une autre condition. Évidemment, faut qu'elle ait le budget, mais bon, ça, c'est
classique.
En tout cas, si c'est, parce que le budget, c'est une vraie question. Donc, si elle a pas forcément le budget, faut qu'elle soit au clair avec la décision qu'elle est en train de prendre. Tu vois, faut que ça soit un choix conscient de sa part, de se dire, ok, je vais dépenser je sais pas, des milliers d'euros dans un site, il faut qu'elle ait vraiment envie et de bosser avec moi et que ça soit clair pour elle, que ça soit ok, tu vois, la dépense. Et ça, ouais. Si tu te dis, bah, je vais prendre un autre petit freelance beaucoup moins cher parce que, bah, c'est moins cher, essayer de se renseigner sur qu'est-ce qu'il y a derrière aussi, tu vois, c'est quoi la méthode de travail, est-ce qu'il y a un suivi après? Moi, j'essaye de contacter les gens quelques mois après, le lancement d'un site, par exemple, j'essaye de garder comme ça le contact et quand j'ai le temps, en ce moment, c'est assez limité, mais j'essaye de faire de la veille aussi, tu vois, pour ces anciens clients-là, quand je vois passer un truc un peu intéressant, bah, je leur envoie. Et ça fait toujours plaisir, tu vois, pour la personne en face de se dire, oh, bah ouais, la presta a été cool. Elle continue de m'envoyer des trucs sympas. On prend un café et on prend des nouvelles, quoi.
Ouais, grave. Et ça, je pense, c'est un vrai enseignement pour toutes les personnes qui peuvent avoir l'impression de subir ce truc de freelance de consommation. C'est que souvent, quand on est dans cette situation, je pense qu'il y a un biais de moins cher, c'est mieux. Et que ce que la personne en face, du côté client, recherche tout le temps, c'est moins cher, moins cher, moins cher. Mais en fait, le moins cher, ça a un prix aussi. Et je trouve que là, tu le mentionnes très bien, c'est de se dire, un prix, il y a toujours des choses derrière, il y a la méthode de travail, il y a à quel point je vais loin dans ce que je fournis ou pas, dans le soutien ou pas, dans le nombre d'allers-retours ou pas, dans l'individualisation ou pas. Et je pense que c'est un truc pédagogique très important aussi, et quelque part notre rôle en tant que professionnel, certains indépendants, mais professionnels, d'éduquer les personnes qui cherchent à travailler avec nous aussi en disant, ben, moi, voici comment je travaille. Mon tarif, il sous-entend donc derrière qu'il se passe toutes ces choses-là. Si vous trouvez moins cher, je vous invite à checker qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que oui, moins cher, c'est bien. Mais si vous vous retrouvez largué avec un site que vous ne comprenez pas et que vous ne pouvez pas changer vous-même, est-ce que ça vaut le coup de payer moins cher pour ça, quoi?
Ouais. Après, c'est pas parce que tu vas avoir ce positionnement-là et... Enfin, moi, tu vois, là, j'ai vécu ça récemment où ça a trop bien marché pour moi, on va dire. J'ai accepté, j'ai pas su dire non, tu vois, à certains projets. Et j'ai pas pu délivrer un niveau de prestation de la qualité que j'aurais aimé, que j'ai l'habitude de faire en plus. Donc, ça te met dans une situation aussi où tu te dis, bah, apprendre à dire non, c'est hyper important. Et savoir dire au bon moment aussi à la personne, ok, là... Je vois bien que je suis complètement sous l'eau. Je te sens frustrée parce que j'arrive pas à communiquer avec toi sur où j'en suis dans le travail. Je te redirige vers quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est ok aussi de pas pouvoir finir une mission parce que bah t'as un contexte de vie qui fait que c'est compliqué pour toi en ce moment. Mais là j'ai eu la situation récemment, c'est pour ça que je t'en parle. Ça pour moi c'est un truc plus jamais. Tu vois, je ne veux plus jamais avoir à vivre ça. C'est hors de question. Donc 2023, j'accepte, j'apprends à dire non. Ça va être un peu mon enjeu. Et c'est super. Et c'est dur, tu vois, de dire non. Donc, j'avais le souci sur Malte aussi. J'ai accepté des projets, j'ai accepté des choses qui me correspondaient pas forcément. Parce que je savais pas dire non et j'avais peur de l'après, quoi.
En tout cas, ce que j'entends, ce qui est chouette, c'est que, effectivement, on avait eu cette conversation sur apprendre à dire non à l'époque, mais que tes noms sont de plus en plus durs parce que c'est des choses de plus en plus qualitatives qu'on te propose. À l'époque, dire non, c'était « Ah, j'ai besoin d'argent, donc je vais pas dire non, peu importe la mission. » Aujourd'hui, c'est « Les missions que j'attire me font toutes kiffer, mais à tel point que je dois renoncer à des choses géniales, et c'est un non plus difficile que de renoncer à des trucs qui t'inspirent pas.
» Et c'est hyper dur, c'est inconfortable, c'est vraiment... je crois que c'est un truc, c'est un peu cyclique aussi, tu vois, parce que j'ai l'impression qu'il y a des périodes de ma vie où j'arrive, tu vois, plus facilement à dire non, là, je suis fatiguée, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie à consacrer un projet, ou j'ai trop de projets en ce moment, j'y arriverai pas. Et j'arrive à dire non. Puis il y a des phases comme ça, où, bah, juste, j'ai tellement peur de la suite, que juste, je vais pas dire non, tu vois. Et l'année dernière, c'était ça, parce que j'ai eu un deuxième enfant, là, cet été. Et j'ai eu tellement de demandes avant mon congé mat. Je dis, c'est trop bien, ça me rassure pour après mon congé. Je sais que je vais avoir ces projets-là, donc j'ai dit oui à tout. Et je me suis retrouvée, je me suis juste retrouvée dans la merde, en fait, tu vois, à accepter trop de choses. Et j'ai mis des gens dans la merde. Et c'est terrible, et plus jamais ça. Donc, faut être confiant aussi sur ce que tu as mis en place, sur tous les outils que tu as mis en place, sur ton positionnement, sur ta façon de communiquer, le fait que des clients, mine de rien, il y en a quand même assez régulièrement qui arrivent. Donc d'être serein par rapport à ça et de se dire c'est pas parce que tu dis non aujourd'hui à un client que tu auras plus jamais de travail et c'est pas parce que il y a une presta qui se passe mal, que tu n'auras plus jamais de travail non plus, tu vois. Donc il faut...
Ouais, grave.
Il y a une prise de recul qu'il faut avoir tout le temps, et ça, c'est super dur.
Ouais, c'est clair, parce que j'allais dire, dans le moment où tu dois dire ce non, tu sais que c'est la meilleure chose à faire, mais tu as cette espèce de flip qui naît de « putain, si je dis non à ça, qu'est-ce qui va se passer derrière ?» En fait, nos émotions prennent le dessus. Et ça, je trouve, c'est un truc qui est pas suffisamment mis sur la table dans ce genre de contenu ou les trucs de formation, d'accompagnement sur les sujets business, c'est que en fait, on est des êtres émotionnels. Quand nos émotions prennent le dessus, on perd notre rationalité en grande partie. Et on peut pas prendre des décisions froides, très logiques. Ça n'existe pas, en fait. Ouais. Et c'est pour ça, je pense que c'est vachement dur de dire non. C'est que c'est les émotions qui prennent le dessus.
Ouais. Mais la gestion des émotions, quand t'es à ton compte, elle est essentielle, et c'est hyper... Enfin, c'est vraiment très, très dur, quoi. Après, il faudrait faire des coachings pour ne parler que de ça, parce que le stress, la peur, enfin, il y a plein de choses qui entrent en jeu, et c'est un peu le nerf de la guerre, quoi. La gestion de tes émotions et de ton énergie, évidemment. Mais, on attend la masterclass, Thomas, sur la gestion des émotions. <je pense. rire>
Il y a un épisode de solo qui est prévu sur le sujet, parce que je vois plein de gens qui... Donc déjà, ça, c'est une bonne chose. Il y a un épisode, pour tout le monde qui nous écoute, il y a un épisode qui arrive où je vais parler spécifiquement de ça. Parce qu'effectivement, je vois plein de gens qui subissent les vagues émotionnelles, où ça passe de « je fais n'importe quoi, qu'est-ce que je fais, pourquoi suis-je là, je suis à une imposture complète » à « trop bien, tout se passe bien », enfin voilà, tu vois, où les faits influencent énormément le ressenti.
Ouais.
Et où dès qu'il y a une vague de doute, ça veut dire que c'est la fin, et ainsi de suite. Et je veux vraiment remettre sur la table le fait que, en fait, c'est normal, ça fait complètement partie de l'aventure, et le but, c'est pas d'éradiquer le doute, parce qu'il ne partira jamais. À chaque étape, enfin, moi-même, constamment, à chaque nouvelle couche de développement de ma boîte, je doute de plein de choses, je doute de ma capacité à passer cette prochaine étape, je doute de choses qu'on a mis en place, est-ce que c'est encore les bonnes choses, est-ce qu'il ne faut pas réinventer, enfin, c'est tout le temps là. Et je pense que l'objectif, donc, c'est pas éradiquer, mais c'est apprendre, comme tu dis, à mieux accompagner, mieux gérer la place que ces émotions prennent. Il faut les accueillir, il faut en prendre soin, elles sont là pour des raisons. Mais quand on laisse la peur, par exemple, diriger la barque, je suis pas sûr que la barque aille au bon endroit, quoi. Et du coup, ça, c'est toute une maîtrise.
Ouais, il y a un vrai sujet, je trouve, de compréhension de soi et de faire preuve d'empathie avec soi-même aussi, tu vois, de se dire qu'est-ce que je suis en train de vivre là et comment je peux accueillir ça. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cette peur, tu vois, de manquer de clients, elle vient dire de moi? Ouais, il y a plein de questions comme ça, hyper philosophiques, qu'on pourrait se poser. Mais je trouve que c'est un moteur, tu vois, quand t'es indépendant aussi, de se poser tout le temps ces questions-là. Et c'est ok que pour certaines personnes, ça soit pas du tout un sujet, tu vois. Il y a des personnes qui ne doutent jamais. Même si, je pense qu'il y en a peu. Mais, tu vois, le stress, personne ne vit le stress de la même façon. Pour certains, ça va être un moteur. Pour d'autres, ça va les arrêter net. Donc, juste de savoir comment tu fonctionnes et de mettre en place le cadre et les conditions qui font que tu subisses pas ces émotions-là. Donc, moi, juste savoir comment tu fonctionnes. Moi, je sais que je suis quelqu'un de cyclique et je sais que je suis une sprinteuse aussi, tu vois, dans ce que je fais. Je peux être hyper efficace sur toute une journée. Par contre, il me faut une journée derrière pour m'en remettre. Et ça, quand tu le sais, du coup, t'aménages ton planning différemment. T'essayes de te respecter, en fait, tout simplement.
Ouais. Et ça, je pense, c'est un autre critère dans ce passage de quitter le mode freelance de consommation.
Ouais.
C'est designer ta manière de travailler pour qu'elle soit à ton service plutôt que de la subir. Là où, tu vois, j'ai l'impression... Au tout début, tu subissais vachement toutes les demandes de Malte, tu subissais le rythme imposé par le client, les deadlines que tu choisissais pas. Et qu'un des gros shifts, c'est en fait, voilà, moi je suis aux commandes, les gens peuvent rentrer dans ce cadre-là, comme on disait, sur les conditions idéales, et j'organise mon temps d'une manière qui m'empouvoire à créer les meilleurs résultats.
Ouais.
Ça, je pense, c'est un shift qui est hyper important.
Ouais. Et de toute façon, moi, ce que j'observe aussi, c'est à chaque fois que je me retrouve un petit peu embourbée, tu vois, dans une situation de j'ai plus la main sur mon planning, j'ai plus la main sur mon énergie, sur la quantité de travail que je suis en train de fournir, où vraiment t'es dans une phase d'épuisement. Et ben, c'est des indicateurs, en fait, peut-être de ok, peut-être que maintenant t'as besoin de déléguer et de passer à un niveau supérieur. Peut-être que t'as besoin, je sais pas, de prendre un stagiaire ou un alternant ou quelque chose, mais c'était bien le mode solo, mais et tu vis ça, je crois, en ce moment aussi. Mais c'est bien de passer oui. à une marche au-dessus et tout ça, c'est des signes, je crois, qu'il faut savoir analyser. Après, peut-être l'ambition de tout le monde, c'est pas d'avoir une entreprise avec plein de gens. Mais du coup, si tu te retrouves embourbé dans je suis un freelance de consommation, j'ai plus la main sur rien, bah juste prendre du recul et essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire et c'est quoi la prochaine étape du coup pour toi. Moi, la prochaine étape, quand j'ai à ce moment-là, ça a été de prendre un coaching avec toi pour essayer de travailler sur ces sujets-là. Mais ça peut être plein de choses différentes et ça va varier d'une personne à l'autre.
Ouais. Et ce que je trouve important dans ce que tu dis là, c'est vraiment la notion d'indicateur, de se dire ok, je suis dans une situation, elle ne me convient pas totalement, mais ce n'est pas une fatalité. Quelque part, j'ai le pouvoir de repenser la chose. Il faut juste que j'identifie quel est le point de friction. Et ensuite, la stratégie pour y répondre. Et ça peut être effectivement, ok, il faut que je me repositionne, il faut que je change ma méthode, il faut que je délègue. Les portes de sortie sont multiples. Ouais. Et identifier la bonne pour soi.
Ouais, puis il ne faut pas perdre de vue.
Cette notion de...
Pardon, vas-y.
j'allais dire cette notion d'indicateur.
Ouais.
Ça indique des choses, ce n'est pas une fin en soi.
Ouais, puis on s'est mis à notre compte aussi pour une raison. Donc c'est bien de temps en temps de se rappeler le pourquoi du comment et de se dire, ok, est-ce que c'est au service de la raison pour laquelle je me suis mise à mon compte?
Grave. Donc,
c'est un peu la base, tu vois, mais moi je me suis mise à mon compte pour profiter de mon enfant, parce que maintenant j'en ai deux, tu vois, je voudrais profiter d'eux, et je me rends compte que c'est pas du tout le cas en ce moment parce que je suis complètement débordée. Donc j'ai de la chance, tu vois, j'ai des sous les yeux tout le temps, donc ça me rappelle à l'ordre. Mais du coup, il y a du taf à faire pour revenir à cette idée de départ-là et se dire, ok, on remet les choses à plat et on a accumulé des connaissances, du savoir, des outils, et on met tout ça en place pour passer à un stade supérieur quoi, de ta vie d'indépendant.
Ouais. Ouais, donc on est toujours dans cette espèce de cheminement de... Il y a mon idéal, je m'en décale un peu, il y a des indicateurs qui me montrent que je suis pas aligné, comment je me réaligne. Et c'est un chemin qu'on fait sans cesse et on revient toujours en essayant de se réaligner petit à petit, quoi.
Ouais.
Clairement.
Ouais, c'est hyper important. Et puis, c'est quelque chose que tu peux aussi inculquer à tes clients, tu vois, de dire, ok, est-ce que tu es aligné là avec ce qu'on est en train de faire, avec les décisions que tu prends? Tu voulais faire une super identité visuelle et tout, mais t'es pas ok avec le prix. Du coup, est-ce que ce choix, il est vraiment aligné avec toi et tes envies? Et est-ce que tu sens que c'est vers là que tu dois aller, quoi? Et c'est des questions qui sont toujours intéressantes. Ça soulève, en fait, tellement de questions derrière que c'est bien de glisser ça à un moment donné dans dans ta relation avec le.
C'est clair.
La personne, ouais.
Ouais, c'est clair. Ce que je vais essayer de faire l'exercice de résumer les grands points qu'on s'est dit pour les personnes qui nous écoutent. Donc, on est en train de se demander là comment on fait pour sortir du mode freelance de consommation. On a parlé de plein de choses. Une des choses dont on a parlé, c'est l'importance de la posture. Donc, se prendre au sérieux, apprendre à dire non, savoir qu'on a une vraie expertise à donner et qu'on n'est pas juste là pour exécuter ce que la personne nous demande. On a parlé suite à ça du positionnement. Donc, qu'est-ce que je fais de spécifique? Et pour quelle problématique et personne spécifique, et comment j'assume ça davantage dans ma communication, dans ma relation avec mes prospects, et ainsi de suite. On a du coup parlé de méthodologie là-dedans, et du fait de vraiment bien comprendre c'est quoi ma méthode, et comment je l'applique, et ça c'est un point de différenciation pour pas qu'on soit juste une pomme parmi les pommes, ou une canette de soda parmi les canettes de soda. On a parlé de la gestion émotionnelle. Donc, il y a un cap à passer sur comment je prends en compte mes émotions pour avancer ou pas dans une mission. On a parlé du cadrage et des conditions idéales. Et ça, d'ailleurs, c'est un truc, je le répète ici. Je t'ai trouvé impressionnante pendant tout l'accompagnement sur le coaching, ta capacité à prendre un truc comme cette conversation qu'on avait eue sur les conditions idéales. Et la semaine d'après, t'arrives avec « Bon, ben, j'ai fait un gros document avec toutes les conditions. Je vais l'envoyer à début de chaque mission. » C'était en mode, bon, idée, boum, exécution, idée, exécution. Et ça, c'était fascinant à voir.
Ouais.
C'est un vrai point de force, je pense. Donc, ouais, posture, positionnement, méthodologie, gestion des émotions, cadre, mission, conditions idéales. Est-ce que j'ai oublié quelque chose de ce qu'on s'est dit, Caroline?
Non, je pense que c'est à peu près ça. Et ne pas oublier le pourquoi. Ou si
et
tu
de pas oublier pourquoi.
Ouais.
Mmh. Ouais, grave.
Hyper important.
Ce qui est quelque chose qu'on oublie régulièrement, quoi. On se perd dans le quotidien de la nouvelle mission, les 1000 prochains euros de chiffre d'affaires, tout ça, et on oublie que, je suis là parce que j'ai choisi et j'avais une quête à la base pour laquelle je suis venu. C'est quoi déjà cette quête?
Ouais, et puis c'est normal d'être... je crois que toi, tu utilises la métaphore du chien un petit peu foufou, là, pour l'objet brillant.
Ouais. Oui.
Et c'est normal, tu vois, quand on se lance et de voir que j'ai du travail qui rentre, j'ai des missions et tout, c'est normal d'être dans un état de je prends tout ce qui passe et c'est trop bien et je m'éclate et c'est cool.
Ouais.
Mais calmons-nous. Calmons-nous deux minutes. Et il faut savoir aussi avoir des phases où tu analyses ce que tu as déjà fait et tu ne fais rien, quoi. C'est, c'est important.
Ouais, grave.
Prenons des vacances. C'est utile.
Qui font vraiment du bien. Complètement. J'en sors de 4 jours et je suis ravi de cet espace de vide pour me laisser re-remplir.
Ouais. Et puis, il faut pas oublier que l'ennui, c'est quand même, faut qu'on se sorte de la tête que s'ennuyer, c'est nul et c'est péjoratif, tu vois. C'est hyper, c'est hyper important de s'ennuyer. Ça nous apprend plein de choses et on a de belles décisions qui émergent quand on s'ennuie. Donc accepter aussi de pas avoir de demande des fois et te dire ok là je m'ennuie qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire et c'est constructif de
très aligné très aligné avec ça. Est-ce que Caroline tu te sens aujourd'hui sortie du schéma freelance de consommation?
Carrément, je me sens sortie de ce schéma là. De toute façon je ne trouve plus de clients via Malte donc déjà un gros problème en moins, mais voilà, là j'ai la chance de pouvoir avoir des projets qui viennent à moi qui sont hyper chouettes, qui répondent à plein de conditions que je me suis fixées. Là mon enjeu c'est plutôt me structurer, prendre du temps aussi pour prendre soin de moi, de mon entreprise et prendre du recul sur tout ça. Voilà, je crois que c'est juste une étape l'étape d'après quoi. Mais ouais, je me sens sortie de ce schéma de freelance de consommation et ça c'est incroyable.
Trop bien. Je suis ravi. Et je souhaite aussi ça à toutes les personnes qui nous écoutent, qui se sont peut-être senties concernées par ce qu'on disait. Ce que je te propose, c'est qu'on arrive sur les petites questions rituelles de fin d'épisode. Il y en a 5. Est-ce que ça te va qu'on démarre le processus?
Ouais. C'est parti.
Cool. Trop bien. La première, c'est... On a parlé de Caroline qui se lançait dans son aventure au tout début, 2019. Si tu pouvais avoir une conversation avec elle, c'est quoi le conseil majeur que tu lui donnerais pour ses premiers pas?
Je crois que je me dirais de documenter ce que je fais. Parce que, documente ce que tu es en train de vivre. Je crois que c'est ça. Parce que je sais que j'étais dans un état... c'était cool, quoi. Tu vois, même si c'était difficile parce que les projets s'enchaînaient et tout, c'est une étape de la vie, mais... J'aurais documenté tout ça, tu vois, là, j'aurais de la matière pour faire du contenu qui pourrait aider d'autres personnes. Et de documenter tout ce qu'on fait au quotidien, je trouve que c'est hyper, hyper puissant comme support pour la suite, quoi. Donc, je me dirais de prendre l'habitude d'écrire un petit peu tous les jours, ou juste d'enregistrer, tu vois, des mémos de ce que t'es en train de vivre, de ce que tu ressens. Faire une petite base de données comme ça, et puis les moments où tu te sentiras de nouveau dans un état de je suis complètement sous l'eau, ça va pas du tout, juste de reprendre ces notes-là et te dire « Ah ok, je suis déjà passée par là. Et qu'est-ce que j'avais fait à ce moment-là pour passer au-dessus? Et qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce que je ressentais ?» Et donc, moi, je dirais documenter.
Trop bien. Et je trouve que c'est une pratique déjà qui vide et qui te permet de créer de l'espace mental, surtout face aux grandes choses, quand on n'a plus trop d'espace, comme la pensine de Dumbledore, quand on sort les trucs de la tête et on les pose, mais aussi effectivement pour cette espèce de processus de connaissance de soi dont on a parlé pas mal dans cet épisode, je trouve que c'est aussi une super pratique de poser sur le papier pour être face à face avec soi-même, quelque part, dans le présent, mais aussi dans le futur.
C'est clair.
La seconde question, c'est quoi à ton sens, depuis que tu t'es lancé, la plus grosse difficulté que t'es rencontrée et comment t'as fait pour la dépasser?
Ah, elle est dure cette question. Bah, je crois que c'est ce que je viens de vivre là, en fait. Tu vois, un client qui est pas content de la presta et qui décidait, tu vois, d'arrêter la mission en cours de route et, ouais, de se retrouver dans une situation de j'ai déçu la personne en face de moi. Pire sentiment, pire sentiment pour moi, tu vois, de décevoir les gens, c'est terrible. Donc, ouais, je crois que c'est ça la plus grosse difficulté, c'est de se louper sur une mission. Et c'est un bel apprentissage, hein, en tout cas, faut essayer de voir le positif là-dedans et d'en tirer des leçons, sinon c'est clair que les émotions reprennent le dessus et c'est compliqué. Mais du coup, pour passer au-dessus de ça, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir eu d'autres clients en parallèle qui ont été très bienveillants avec moi. Moi, j'ai cette chance en fait d'avoir des clients que je considère comme des clients en or, vraiment. Je suis bénie par des clients incroyables et il y a de l'espace, tu vois, pour communiquer sur plein de sujets différents et tout. Et ouais, ils ont été là, ils m'ont rappelé, non mais attends, mais moi, tu m'avais livré tel truc l'année dernière et j'avais adoré, c'était super. Donc juste fais-toi confiance et ok, t'as loupé cette mission-là, tire-en des leçons et avance, quoi. Faut pas, surtout pas s'arrêter à ce genre de choses parce que sinon, bah, je pense qu'on arrête en fait. Je deviens mère au foyer, j'arrête tout, quoi. donc c'est, ouais, de bien s'entourer dans ces moments-là, c'est important, et d'exprimer aussi ce que tu ressens, tu vois, de pas le garder pour toi, c'est faut trouver de l'espace pour
et je pense que ce que tu mentionnes est très vrai, c'est dans ces moments-là le poids que une expérience désagréable et où on a pu décevoir quelqu'un prend tellement plus de poids que des dizaines et des dizaines d'expériences hyper positives où tout le monde était satisfait. Genre tout d'un coup tout ça, ça s'efface et ça se perd derrière et c'est comme si ça n'avait jamais existé. Et c'est vrai que c'est dur ces moments où en fait tu mesures ta valeur plus qu'à ça presque. Donc je comprends complètement que ça a été très difficile à traverser.
Ouais, c'est pour ça c'est important, tu vois, dans la durée d'un projet, quand tu arrives à la fin, ben d'envoyer un petit questionnaire aux gens pour qu'ils te laissent un témoignage, qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que je peux améliorer et tout, parce que s'il y a des belles choses à ressortir, parce qu'on va dire que tu as bien fait ton taf de A à Z, les personnes sont hyper heureuses d'avoir bossé avec toi, ça fait juste du bien, tu vois, de relire ces témoignages-là et de se dire, ok, bon, sur les 20 personnes que j'ai accompagnées, il y en a une qui a pas vécu l'expérience de fou que j'avais envie de lui faire vivre. Ça arrive, malheureusement, ça fait partie de la vie, on reste des humains. Il y a d'autres humains qui m'aiment, tu vois. Donc ouais, c'est important.
Ouais, et pour appuyer sur ça, parce que c'est peut-être le cas d'autres personnes qui nous écoutent, qui vivent en ce moment ça ou qui ont vécu ça, j'ai envie d'appuyer sur un petit point de rééquilibrage dans le sens où, comme tu dis, vivre ce genre d'expérience où on a une personne déçue, on passe à côté d'une mission, on la loupe, ça a des avantages à plein d'endroits pour tout le monde. Pour toi, parce que comme tu le dis, t'apprends plein de choses sur ton processus, sur... ok, peut-être que là j'ai pris trop de gens et ça me donne des leçons importantes pour la suite. Et ça c'est quelque part bien parce que souvent les êtres humains ont besoin de vivre des choses très désagréables pour se bouger. Donc peut-être que sans ça, il y a des choses que tu vas mettre en place que tu aurais jamais mises en place avant. Ouais. C'est une bonne nouvelle pour ça. Mais c'est aussi quelque part une bonne nouvelle pour nos clients parce que ça les aide à avoir beaucoup plus de clarté aussi de leur côté sur ce genre de choses. Sur ok, qu'est-ce qui est important pour moi avant de m'engager? Peut-être que c'est des choses dont ils n'avaient même pas conscience sur eux, de tiens, ça c'est vraiment important pour moi, je m'en étais jamais rendu compte, cette expérience, certes désagréable, ramène à la lumière les choses qui ont besoin d'y être.
Ouais.
Et sur le court terme, c'est très dur à vivre pour tout le monde, très inconfortable, et malheureusement, des fois, ça peut mettre fin à des relations. Mais sur le long terme, tout le monde gagne. Et moi, c'est un truc que j'avais reçu dans différentes pratiques de développement personnel, et c'est un espèce d'ancrage qui reste en tête maintenant. C'était une phrase de David Laroche où il disait « conflit égale potentiel de croissance
».
Et que si on évite toujours le conflit, ben on se prive quelque part de la croissance qui peut venir de ces conflits. L'idée, c'est pas de rechercher le conflit, mais c'est de se dire que quand il y a conflit, c'est quelque part un potentiel d'avoir du mieux de l'autre côté pour tout le monde. Et ça, je trouve, c'est hyper intéressant à ancrer, de se dire, ok, c'est pas grave. Tout le monde va grandir de ça. Je suis pas une mauvaise personne. L'autre n'est pas une mauvaise personne. Mais c'est des opportunités qu'on peut saisir pour faire mieux, quoi.
Ouais, ça te permet de redéfinir à nouveau les contours de le cadre dans lequel tu bosses aussi. Et Ouais, ça apprend plein de choses. Après, c'est clair que bah, je pense qu'il faut pas hésiter dans ces moments-là à se faire accompagner aussi et à aller juste demander de l'aide parce que des fois,
ouais.
Juste dire au secours, à l'aide, je me noie, je suis complètement sous l'eau, aidez-moi, ouais. Bah, c'est important.
Ouais, complètement. Complètement. La question suivante, c'est un peu répondu tout à l'heure, mais on va sûrement revenir dessus, c'est quoi ton objectif du moment, Caroline? En ce moment, dans ton aventure indépendante, c'est quoi le truc après lequel tu cours?
Le temps. Le temps, ouais, j'ai besoin. Là, j'ai besoin, mon objectif, c'est la structure. Je crois que j'arrive à un stade où j'arrive à faire rentrer un chiffre d'affaires qui est quand même intéressant. J'ai besoin, tu vois, de passer au-dessus. Donc, me structurer, reprendre le contrôle de mon planning, c'est ça. Je rigole, mais c'est pas drôle du tout à vivre. Mais de me redégager de l'espace pour pouvoir profiter aussi de la vie, parce que le travail, c'est bien. On adore travailler. Enfin, moi, j'adore travailler. Mais il y a toute une vie autour. Il y a d'autres humains dont il faut prendre soin. Et le premier dont il faut qu'on prenne soin, je crois que c'est nous. Donc, du temps pour moi. Là, ouais, ça va être important de reposer ça pour mieux prendre soin bah, de la famille, des clients, des projets. C'est un tout, en fait. Donc, là, mon objectif, c'est l'apaisement. Je crois que c'est ça.
Ok. Ouais, t'as répondu un petit peu à ma question d'après, mais je vais te la reposer quand même pour qu'on l'ancre, parce que c'est cool de le dire. C'est qu'est-ce que tu cherches vraiment derrière cet objectif? J'entends, mon objectif, c'est de me structurer pour regagner du temps. Pourquoi c'est important pour toi, ça?
Bah, pour avoir du temps en famille, simplement. Pouvoir vivre de belles choses aussi avec les enfants, avec mon conjoint. Enfin, voilà, avoir une vie... avoir la vie, en fait, qui me fait plaisir. Et s'il y a des semaines, ça me fait plaisir de bosser H24, bah, de le faire. Et s'il y en a d'autres où j'ai envie de bosser que 2 jours par semaine, et bah, de mettre en place ce qu'il faut pour que ça soit possible.
Ouais.
Mais ouais, avoir du temps perso, c'est important.
Ouais. Donc, j'entends, on revient sur la raison même pour laquelle tu t'es lancé, finalement.
Ouais.
Trop bien.
Toujours.
La dernière question de ce petit rituel de fin, c'est de se tourner vers les gens qui nous écoutent. J'aimerais savoir, Caroline, si tu as une question que tu aimerais poser à nos auditeurs, nos auditrices, pour qu'après cet épisode, elles prennent un temps pour réfléchir à leur activité, leur vie d'indépendant. C'est quoi la question que tu as envie de poser?
Je réfléchis un peu.
Prends tout ton temps.
Je crois que cette question des conditions, elle est hyper importante en vrai. Donc, c'est quoi les conditions pour bosser avec toi et qu'est-ce que t'attends aussi comme condition de la personne en face? Ça, je crois que c'est important, ouais, de se la poser. Et je trouve qu'elle est... Moi, je trouve qu'elle a changé quand même pas mal de choses, tu vois. Rien que d'assumer le fait que bah après 16h30, par exemple, t'es pas joignable... C'est une condition de temps qui est hyper importante parce que ça te permet de vivre d'autres choses à côté.
Donc, ouais.
Ouais, de se poser les questions de c'est quoi mes conditions pour travailler. Et ça va varier. Ça peut varier aussi, tu vois, tu peux te la poser régulièrement et d'un jour à l'autre, ça peut ne pas être la même réponse. Mais toujours pour revenir sur ces cycles, c'est intéressant, je trouve, de se la poser assez régulièrement dans l'année. Ok, c'est quoi mes conditions? Et il y a de grandes chances pour que les conditions changent aussi en fonction des projets que tu suives, des personnes que tu accompagnes et des expériences que tu vis.
Ouais, trop bien. Effectivement, ces conditions de temps de travail, tarifs, comment on bosse ensemble, les attentes de l'autre, plein de critères à creuser à l'intérieur. J'adore cette question.
Bah voilà, c'est ma question.
Formidable. Merci beaucoup, Caroline. Si jamais les personnes qui nous écoutent, vous voulez répondre à la question de Caroline, vous pouvez le faire auprès de moi avec plaisir. Mais Caroline, où est-ce que je les envoie s'ils veulent répondre à ta question et te remercier pour ton partage?
Alors LinkedIn, Instagram, c'est essentiellement par là que je communique actuellement. Tu peux les envoyer sur mon site aussi, comme ça ils auront tous les liens. Mais ouais, LinkedIn, Instagram, en priorité.
Très bien. Ok. Donc c'est Caroline Tellery, je mettrai les liens de toute façon, mais Caroline Tellery, Teullery, sur les réseaux, Et Bonjour Caroline, ton site, c'est ça?
Mon site, c'est Bonjour Caroline, et sur les réseaux, sur Instagram, c'est Bonjour Caro, et Caroline Tolleri sur LinkedIn.
Très bien.
Peut-être que j'uniformise un peu. Ouais, bah, merci pas, à toi, Thomas.
Et merveilleuse journée à tous et à toutes. Bye bye.
Ouais, belle journée.
Cet épisode t'a plu, t'a inspiré, t'a apporté des clés, bref, t'a donné des belles choses pour avancer dans ta vie et ton aventure entrepreneuriale. Et que tu as envie de continuer l'aventure avec nous en écoutant un prochain épisode. Je le répète, on sort un épisode toutes les semaines, et il y a déjà des heures et des heures de contenu que tu peux consommer sur toutes les thématiques, donc n'hésite pas à aller explorer les autres épisodes de ce podcast. Et si ça t'a plu, la meilleure manière de nous soutenir, et ce qui nous ferait le plus plaisir au monde, c'est que tu mettes une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, et que tu laisses un commentaire pour partager ton expérience. C'est ce qui nous aide le plus à répandre le message à d'autres. Sur ce, je te dis à très bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.